VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous en direct de Washington pour le monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. Bonsoir à tous, voici les titres. Au moins 27 morts dans des attaques dans le nord du Nigeria. Violence également en Afrique du Sud à l'arrivée du président Ramaphosa dans le nord-ouest du pays. Des manifestants ont été repoussés par des tirs de police. Robert Mugabe convoqué par le Parlement pour s'expliquer sur ses allégations concernant la disparition au Zimbabwe de diamants estimés à 15 milliards de dollars. Le président Vladimir Poutine se dit prêt à une rencontre avec Donald Trump, selon le chef de la diplomatie russe. Ne manquez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au moins 27 morts dans une nouvelle vague d'attaques par des bandes armées dans le nord du Nigeria. Jeudi, de présumés voleurs de bétail ont lancé des représailles contre deux villages de l'état de Zamfara, où l'armée a été déployée pour lutter contre la criminalité. Selon un habitant que cite l'AFP, l'attaque a eu lieu après le lynchage d'un membre d'un gang de voleurs de bétail par des villageois. Au Cameroun voisin, deux militaires sont morts et quatre ont été gravement blessés dans l'explosion d'une mine en zone anglophone. Un véhicule de l'armée camerounaise a sauté sur une mine proche de la frontière nigériane, a indiqué une source sécuritaire. La région du sud-ouest est en proie à des violences entre séparatistes et pouvoir central de Yaoundé. Au Sénégal, des chefs de l'opposition arrêtés jeudi à Dakar lors de manifestations contre une révision de la loi électorale ont été libérés ce matin, mais une cinquantaine d'autres protestataires étaient toujours détenus selon une source policière. Le nouveau texte vise, selon les autorités, à permettre un filtre des candidats après une inflation des prétendants aux différents scrutins dans le pays qui compte près de 300 partis politiques. L'opposition affirme quant à elle que la nouvelle loi est destinée à éliminer des candidatures concurrente de celle du président Macky Sall, qui devrait briguer un second mandat en 2019. Le premier ministre malien Souleymane Boubey Maïga a affirmé vendredi vouloir rassembler, protéger et servir ses concitoyens lors de sa déclaration de politique générale à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Il a également évoqué le projet de loi d'entente nationale qui sera sous peu sur la table de l'Assemblée nationale, assurant que ce serait exclu du champ d'application. Ce texte concernant les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes sexuels. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté précipitamment le sommet du Commonwealth à Londres pour se rendre dans la province nord-ouest en proie à de violentes manifestations contre la corruption et le manque de services publics. Nathalie Barge.
La police a tiré des balles en caoutchouc dans la matinée à Maïkeng pour disperser des manifestants avant l'arrivée du président qui a appelé au calme et au respect des lois. Cyril Ramaphosa a demandé à la population d'exprimer ses revendications par des moyens pacifiques plutôt que par la violence et l'anarchie, tout en exigeant de la police qu'elle fasse preuve de la plus grande retenue dans l'exercice de ses fonctions. Il a fait de la lutte contre la corruption une priorité alors que son prédécesseur, Jacob Zuma, a été contraint de démissionner en raison de scandales en la matière, notamment de vente d'armes il y a 20 ans. Depuis le début des incidents cette semaine, des magasins ont été pillés, des véhicules incendiés et 23 personnes arrêtées. Les manifestations ont éclaté après la mort de deux habitants qui s'étaient vus refuser des soins dans une clinique à cause d'une grève. Les manifestants exigent par ailleurs la démission du premier ministre de la province, Supra Mwamapelo, qu'ils accusent de corruption.
Robert Mugabe, donc le Royaume-Uni est prêt à soutenir le retour au sein du Commonwealth du Zimbabwe qui tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe. C'est ce qu'a annoncé le ministère britannique des Affaires étrangères ce vendredi. Surprise et préoccupation parmi les habitants du Swaziland, pays rebaptisé Iswatini par son roi, le dernier monarque absolu d'Afrique. Un changement de nom, Jacques Aristide, qui provoque donc beaucoup de commentaires.
à l'origine de cette convocation des propos tenus en 2016 par l'ancien chef d'État zimbabwéen qui s'indignait de la disparition de 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption. Il avait aussi accusé les compagnies minières étrangères de pratiquer l'évasion des capitaux. En plus du président Mugabe, plusieurs anciens ministres, chefs de police et hauts responsables de l'administration devront aussi témoigner, a précisé Temba Mliswa, le président du comité parlementaire des mines et de l'énergie. Robert Mugabe, qui était président depuis 1980, a été contraint en novembre de démissionner sous la pression de l'armée, du peuple et de son propre parti, la ZANU-PF. L'ONG Global Witness avait accusé l'an dernier les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné les revenus des exploitations de diamants pour leur campagne politique. Le Zimbabwe n'a jamais publié de statistiques de ses activités démentifères qui ont débuté en 2006.
Vous venez d'écouter donc les précisions de Marie Benson concernant l'ancien président du Zimbabwe qui devra s'expliquer devant le Parlement le 9 mai prochain sur la disparition du diamant d'une valeur de 15 milliards de dollars. Et puis donc un mot sur le Swaziland avec donc cette rebaptisation de Eswatini.
Iswatini, le pays des Swazis en langue Swati. Le nom Swaziland, lui, est un mélange des langues Swati et anglaises. Le petit État, ancien protectorat britannique, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, marquait son 50e anniversaire de l'indépendance hier. C'est à la surprise générale lors des cérémonies que Mswati III a annoncé le nouveau nom du pays. Pour ses adversaires, la décision est révélatrice de l'autoritarisme du monarque qui gaspille les fonds de l'État alors que le pays souffre de la pauvreté. Pour Alvin Dlamini, d'un parti politique qui, comme tous les autres, n'est pas autorisé à participer aux élections, le roi n'a pas le droit de changer le nom du pays à sa guise. Il est censé consulter la nation, dit-il, en soulignant le coût d'une telle mesure. De son côté, le Congrès des syndicats du Swaziland a prévenu que le changement ne prendrait pas effet immédiatement et que lui-même n'envisageait pas de modifier son nom de manière imminente. Le Parlement doit maintenant entamer la procédure d'amendement de la Constitution pour une majorité de Swazis. Interrogé, le changement de nom entraîne la crainte de dépenses inutiles et d'un accroissement de la bureaucratie.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé à un remaniement ministériel qui a vu notamment le départ de son chef de la diplomatie et le maintien à leur poste des ministres chargés de superviser le contesté référendum constitutionnel du 17 mai, a annoncé jeudi soir la présidence. 4 ministres quittent le gouvernement et 5 autres y font leur entrée, l'équipe passe donc de 20 à 21 ministres. L'opposition équato-guinéenne a dénoncé vendredi un colloque sur les droits de l'homme organisé par le gouvernement ce mois-ci, estimant que les violations des dits droits sont monnaie courante en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale dénoncée par des ONG pour son manquement en matière de respect des droits humains organise du 18 au 21 avril un colloque pour apporter les réponses aux informations infondées contre la Guinée équatoriale selon une note du gouvernement. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s'est dite vendredi alarmée du renvoi par le Cameroun de réfugiés et demandeurs d'asile nigérians ayant fui les violences du groupe djihadiste Boko Haram. Depuis le début de l'année, 385 Nigérians ont été forcés de retourner au Nigeria depuis le Cameroun. La situation sécuritaire en Centrafrique a été ce matin au centre d'un échange entre le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange Touadéra, et les forces vives de la nation à Bangui. À cette occasion, les représentants de différentes couches sociales et politiques ont donné leur position par rapport à certaines questions, dont le rassemblement des ex-Séléka à Kagabondoro ou encore l'opération contre les bandes armées au quartier PK5 de Bangui, de même que la persistance des violences.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine est prêt à une rencontre avec son homologue américain Donald Trump. C'est ce qu'a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères. Le point avec Yakuba Ouadraogo.
Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a cependant précisé qu'une telle rencontre n'est pas encore en préparation. M. Lavrov dit être parti du principe que le président américain, dans une conversation téléphonique, a déclaré le mois dernier qu'il serait heureux d'accueillir Poutine à la Maison-Blanche, puis de le rencontrer lors d'une visite réciproque. Depuis, aucune suite n'a été donnée à cette idée dans un contexte de tension lié à l'affaire Skripal et à l'attaque chimique présumée de la ville syrienne de Douma attribuée au régime de Bachar al-Assad. Les États-Unis et leurs alliés britanniques et français ont répondu par des frappes condamnées par Moscou. Parlant de la Corée du Nord, Sergueï Lavrov a prévenu qu'une dénucléarisation de la péninsule passerait par un long processus de négociation, ajoutant que Pyongyang voudrait des garanties de sécurité. Moscou s'est aussi félicité du dialogue intercoréen et de la future rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump.
Ici aux États-Unis, des milliers de lycéens américains ont interrompu les cours ce vendredi dans tout le pays pour commémorer le 19e anniversaire du massacre de Columbine qui a fait 13 morts alors que les États-Unis connaissent depuis quelques semaines une mobilisation étudiante contre la violence par arme à feu. À Washington, une manifestation a rassemblé plusieurs centaines de lycéens près de la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le directeur général de l'OMC a alerté sur les risques d'une escalade dans les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine. Roberto Acevedo estime que l'escalade mettrait en danger de nombreux emplois. Pour lui, une rupture dans les relations commerciales entre les principales économies pourrait faire dérailler la reprise de la croissance économique. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump s'en est pris aux membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. Il estime que les cours du pétrole étaient artificiellement très élevés. De son côté, le ministre saoudien de l'énergie estime que le marché avait la capacité de supporter des prix du brut plus élevés. Le cartel et ses dix partenaires discutent actuellement à Jeddah, en Arabie saoudite, une réduction de la production avant une réunion officielle en juin à Vienne. La Russie participe également à la rencontre. Les États-Unis sont l'un des trois premiers producteurs mondiaux. Leurs extractions abondantes compensent la baisse de production de l'Arabie saoudite et de la Russie. Cependant, les tensions géopolitiques, dont la menace du président américain Donald Trump d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran et des problèmes de production au Venezuela, au Nigeria et en Libye, ont aussi alimenté la hausse des prix. Toujours ici aux États-Unis, la banque Wells Fargo a écopé d'une amende d'un milliard de dollars pour des pratiques commerciales illicites. De régulateurs citent notamment des primes d'assurance automobile superflues et des conditions d'octroi de prêts hypothécaires discutables. C'est la plus grosse pénalité infligée à une entreprise depuis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump.
Et maintenant, place au sport qui vous est présenté ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous.
Tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération.
Oui, le tirage au sort aura lieu demain au Caire. Les 16 équipes qualifiées seront réparties dans 4 poules de 4 équipes. Les deux premiers de chaque poule disputeront les quarts de finale du tournoi. Côté francophone, on retrouve le Cara de Brazzaville, Williamsville de Côte d'Ivoire ainsi que l'ASEC Mimosa d'Abidjan. Pour le Mali, le Djoliba, le Raja Casablanca et la Renaissance de Berkane pour le Maroc. Et puis l'AS Vita Club pour la RDC. Enfin, l'USM Alger pour l'Algérie.
Arsène Wenger tire sa révérence avec Arsenal.
Après 22 années passées sur le banc d'Arsenal, le Français Arsène Wenger a décidé de s'arrêter en fin de saison avec les Gunners, avec un ultime objectif, remporter l'Europa League pour sauver une saison catastrophique. À son palmarès, 3 titres de champion d'Angleterre, 7 victoires en Coupe d'Angleterre, 19 participations à la Ligue des Champions, dont une finale perdue en 2006 contre Barcelone.
Coup dur pour Manchester City.
L'attaquant argentin Sergio Aguero sera indisponible jusqu'à la fin de la saison avec son club après une arthroscopie du genou gauche. Annonce de l'entraîneur du nouveau champion d'Angleterre, Pep Guardiola. Mais Guardiola a précisé que le meilleur buteur du club, toute compétition confondue avec 30 buts, eh bien Aguero sera bien rétabli pour la Coupe du Monde qui débute le 14 juin en Russie.
NBA pour finir, championnat de basket nord-américain.
Le champion en titre Golden State a fait un grand pas vers le deuxième tour des playoffs en dominant pour la troisième fois San Antonio 110-97. Dimanche, toujours sur le parquet de San Antonio, les Warriors peuvent composter leur billet pour les demi-finales de conférence. De son côté, la Nouvelle-Orléans continue de maîtriser Portland, qui avait pourtant abordé ses playoffs en pleine confiance en ayant terminé 3e de la conférence Ouest. Nouvelle victoire des Pelicans, 119 à 102.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, place au dossier du jour. Vers une décrispation des relations entre la République du Congo et le FMI, les deux parties annoncent qu'un accord a été trouvé pour une relance de l'économie congolaise. Un accord qui devra toutefois être entériné par le conseil d'administration du FMI. Brazzaville affirme avoir répondu à l'ensemble des critères pour être éligible à un financement de son programme économique et financier. Mais le fonds affirme que le pays devra rompre avec ce qu'il appelle les pratiques du passé.
C'est un communiqué officiel du gouvernement et donc on pense que ce qui a été dit c'est réel. Maintenant, et pour nous en tant qu'observateurs, c'est voir la faisabilité de cet accord de plan pratique, notamment parce que cet accord insiste beaucoup plus dans le cadre de la gouvernance pour enrayer les habitudes du passé. Donc on se réjouit de ces efforts réalisés par le gouvernement congolais. Maintenant, il reste à voir comment ils vont mettre en pratique de la gouvernance pour améliorer la bonne gestion des recettes publiques.
La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a annoncé donc la conclusion de cet accord, mais dit que cet accord sera soumis à des exigences de gouvernance pour rompre avec les pratiques du passé. Donc ce n'est pas vraiment gagné d'avance pour Brazzaville, si on peut dire, non ?
Non, c'est gagné. Maintenant, c'est que dans la faisabilité, il y a des exigences. Exige la transparence dans la gouvernance. Et donc, le Congo devra tenir compte de la transparence des recettes publiques et des dépenses publiques. Là, que se portera en grande partie l'exigence du FMI.
Le FMI avait accusé un peu le gouvernement d'avoir un peu falsifié les chiffres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu dans le passé maintenant?
Oui, c'est dans le passé parce que le gouvernement de la République, avec la mission FMI, ont essayé de faire la toilette sur cette situation. Qui avait fait que le ministre des Finances congolais s'était rendu en Chine pour voir avec tous les partenaires avec qui le Congo était en relation et que cette situation a été éclaircie et que je pense que c'est maintenant le passé.
La République du Congo a des difficultés économiques, notamment à cause de la chute des cours du pétrole. Y a-t-il un plan du gouvernement de diversifier un peu l'économie congolaise pour qu'elle soit moins dépendante du pétrole?
Bon, actuellement, le Congo n'a pas un plan stratégique. Vous savez, dans les années 2012-2016, le Congo a fondé son développement économique à travers le PND, donc le Programme National de Développement, le Plan National de Développement. Et depuis que ce PND est expiré depuis 2016, nous sommes en 2018, le gouvernement n'a pas encore un document cadre stratégique qui peut nous orienter efficacement et efficacement à atteindre des résultats probants. Bon, maintenant, il y a la feuille de route que le président de la République a tracée. Est-ce que cette feuille de route suffit pour nous d'avoir des indicateurs clairs et réels, donc des indicateurs smart pour se rendre compte de l'évolution de la situation économique du pays? Ça, c'est vraiment un vrai problème que nous avons actuellement. Nous partons sur la feuille de route dictée par le gouvernement de la République, mais on n'a pas un cadre statistique approprié.
C'était l'économiste congolais Augustin Benazo au micro d'Abdourahmane Dia.
La rapidité avec laquelle le projet de loi constitutionnelle est engagé par le pouvoir montre à suffisance que la nouvelle constitution de la 4e République va...
Au Tchad, le projet de révision de la Constitution déposé sur le barreau de l'Assemblée nationale suscite de vives réactions. Pour l'élite tchadienne, la modification de la Constitution actuelle, qui est un contrat social entre le gouvernement et le peuple, doit nécessairement passer par un référendum et non par l'Assemblée nationale. André Komadjingar, correspondant de la VOA, nous fait le point de N'Djamena.
La rapidité avec laquelle le projet de loi constitutionnelle est engagé par le pouvoir montre à suffisance que la nouvelle constitution de la 4e République va passer comme une lettre à la poste sans débat contradictoire, car une trentaine de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale boycottent les activités de cette institution jusqu'au 30 avril prochain. Les évêques du Tchad déplorent et expriment leur inquiétude de la manière dont le processus d'institution de la 4e République se déroule. Yves Alangomi est le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad.
Ces processus risque de fausser gravement les règles du jeu démocratique, car il porte en germe une grave division des cœurs entre les citoyens. Un changement fondamental de cette nature devrait se faire dans le respect de la Constitution, qui dit dans son article 224 « La révision de la Constitution est approuvée par référendum ».
Pour Dr Sitak Yumbatna Beni, juriste et ancien chercheur à l'École nationale d'administration, il y a un déficit démocratique dans ce processus.
Parallélisme de forme oblige, n'est-ce pas, sur le plan du droit. C'est qu'une fois la Constitution de 96 a été adoptée par référendum, celle qui doit venir, n'est-ce pas, remettre en cause ne peut passer que par référendum. Ça, c'est les textes, n'est-ce pas, sur le plan juridique. Deuxième chose, on veut non seulement modifier la Constitution de 96, mais on veut changer également de république. Donc, ça dit changement de paradigme. Et là aussi, il faut expliquer les contextes. Parce que pour changer même d'une république, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des circonstances, n'est-ce pas, graves. Or là, on ne voit aucun événement majeur. Donc, il y a un problème, justement, de déficit démocratique. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont rédigé la Constitution, c'est les mêmes personnes qui les ont adoptées en Conseil des ministres. Les mêmes personnes qui vont adopter ça encore au Parlement. Donc, du coup, ça pose quand même problème.
Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, est conscient du débat peu démocratique qui pourrait découler des discussions du 30 avril prochain, pouvant aboutir à l'adoption de cette nouvelle loi fondamentale.
Je relève pour le déplorer que certains de nos collègues députés de l'opposition ont refusé systématiquement de prendre part aux travaux de la commission spéciale mise en place en vue de procéder à l'examen de ce projet de loi constitutionnelle. Je les invite humblement à se joindre à leurs collègues députés pour un débat serein sur le dit projet de loi constitutionnelle.
Déjà lundi dernier, le secrétaire général de la primature a, dans une note de service, demandé aux différents responsables chefs de service de faire l'inventaire dans les détails tous les biens mis à leur disposition. Une note de service qui panique le personnel de cette institution jugée budgétivore qui sera mise en chômage au seuil de cette 4e République. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
VO Afrique, Ndjamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Destination le Saint-Cierge. 250 prêtres venant de 50 pays suivent au Vatican un cours sur l'exorcisme. Ils apprennent comment identifier la possession démoniaque, les techniques et les rituels pour chasser les démons. Éric Manirakiza a joint à Rome l'un des formateurs de ce cours, le père François Dermine.
Première des choses, il faut spécifier que ce cours n'est pas exclusivement pour les exorcistes. C'est un cours sur l'exorcisme et la prière de libération qui s'adresse donc non seulement aux exorcistes, mais aussi à leurs éventuels collaborateurs ou auxiliaires, d'une part, et d'autre part, aux religieux, religieuses, aux médecins, psychologues, psychiatres, qui s'intéressent à ce phénomène. Donc, le but, bien sûr, est d'informer les gens sur cette pratique dans une optique pluridisciplinaire. Donc, nous affrontons la question d'un point de vue psychologique, bien sûr, légal, spirituel, rituel, etc.
Et avec cette expérience, on peut chasser les démons, c'est ça ?
Il faut le mandat de l'évêque pour être exorciste. Et puis, le ministère nous porte à affronter des cas de toutes sortes, pas seulement des possessions, mais des vexations, des obsessions diaboliques. Bien sûr, le Seigneur nous a donné ce mandat et le Seigneur nous aide. Donc, bien sûr, le démon peut être chassé, certainement.
Et quelle est la différence avec ceux qui font recours aux méthodes traditionnelles comme les sorciers?
Les sorciers, en réalité, fonctionnent en vertu d'une action diabolique elle-même. Donc, comme dit Jésus, le démon ne se chasse pas avec l'aide du démon. Donc, on ne chasse pas Belzébul en vertu de l'action des démons. Les sorciers agissent en prenant un appui, en trouvant un appui auprès du démon. Leur action n'est certainement pas bénie par Dieu.
Et comment vous identifiez que quelqu'un a besoin de ce service?
Beaucoup de personnes viennent, s'adressent aux exorcistes, bien sûr parce qu'ils croient être victimes du démon. Peut-être qu'avant de venir consulter l'exorciste, ils ont consulté des magiciens, ou bien chez vous en Afrique, des sorciers, et ça n'a pas fonctionné. Et personnellement, je suis allé aussi moi-même en Afrique, il y a un mois et demi, en Côte d'Ivoire, où j'ai fait une semaine de formation à Abidjan. Et j'ai toujours cru que l'avenir de l'Église était en Afrique. Mais au contact, ce contact avec l'Église africaine m'a quand même fait comprendre qu'une que les croyants là-bas sont fort pris par cette question de la sorcellerie. Le clergé a besoin d'être formé justement pour répondre à ses besoins, mais sans tomber dans l'excès que commettent certainement les églises protestantes qui sont en Afrique et qui exploitent beaucoup cette peur. Ils font des exorcismes publics lors de leurs célébrations et ça, bien sûr, cette question est en train de vicier un peu la perspective chrétienne.
Le père François Dermine au Vatican. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Cheikh Tiro, à la console, Jonah Comins, à la présentation, Ekia Badou. On reste connectés sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Bonne suite des programmes à vous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
En vue de limiter les ressources qui attisent la guerre civile au Soudan du Sud, le département du commerce des États-Unis a imposé des exigences de licence à 15 entités pétrolières sud-soudanaises dont les revenus alimentent la crise en cours. Cela signifie que l'exportation, la réexportation et le transfert par ces entités de tout produit ou article américain sont désormais soumis à une licence d'exportation. Selon la Banque mondiale, le Soudan du Sud est l'un des pays le plus dépendants du pétrole, l'or noir représentant presque la totalité de ses exportations et environ 60% de son PIB. À travers leur action, les États-Unis espèrent accentuer la pression en vue de mettre un terme à 5 ans de guerre civile dans ce pays et la crise humanitaire qui en a résulté. En décembre 2013, en moins de 18 mois après avoir déclaré son indépendance, le Soudan du Sud s'est trouvé confronté à une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Ce conflit qui s'est transformé en une guerre civile a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. L'économie a été dévastée, avec en plus une prévalence des abus des droits humains, de la famine et de la malnutrition. Les violences ont fait près de 2 millions de déplacés internes et plus de 2 millions de Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins. Les 15 entités visées par les sanctions américaines incluent les ministères sud-soudanais du pétrole et des mines et la compagnie pétrolière d'État Nile Petroleum. Sont également visées Dar Petroleum Operating Company, la compagnie de distribution pétrolière Niak et Fils, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services et Sud Petroleum Operating Company. Ces compagnies sont une source de revenus substantiels pour le gouvernement du Soudan du Sud, a déclaré la porte-parole du département d'État, Head Nauert. Malheureusement, le gouvernement sud-soudanais et les responsables corrompus utilisent ces revenus pour acheter des armes et financer des milices qui sapent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud au lieu d'assurer le bien-être et fournir l'aide alimentaire d'urgence en faveur du peuple sud-soudanais. Le gouvernement du Soudan du Sud peut faire mieux, a dit Head Nauert. En tant que principal fournisseur d'aide au Soudan du Sud, les États-Unis sont fiers de défendre les valeurs humanitaires et de fournir une assistance vitale. Le gouvernement du Soudan du Sud ne doit pas gaspiller cette générosité, mais plutôt prendre des mesures concrètes pour satisfaire les énormes besoins du peuple sud-soudanais.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.